Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pouvez trouver les derniers opus sur la page de l'émission, qui s'appelle aussi Radicaux Libres, la page de l'émission, mais qui est sur quel site ? Eh bien sur radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de Gaza. Ouais, 150 personnes défilent dans les rues du Mans, jeudi 4 avril, certains avec des masques et des pancartes. Sur ces pancartes, une photo montrant une personne, un habitant de la bande de Gaza, tué depuis octobre 2023. Une courte biographie et un slogan. Pas que des nombres, des visages. En effet, ce ne sont pas que des chiffres qui meurent dans cette guerre. Derrière les combats, des combats de comptables, à propos du nombre de morts, d'estropiés, de disparus, on trouve à chaque fois des êtres humains. Et si le Hamas gonfle les chiffres et si les autorités israéliennes les minimisent, dans tous les cas, les morts, les blessés, les disparus sont des humains. Ce n'est pas toujours le cas dans l'armée israélienne, puisque en novembre dernier, déjà on apprenait que Tsahal utilise des intelligences artificielles pour définir des cibles, avec, comme avec toute utilisation d'intelligence artificielle, une marge d'erreur, et surtout, pour les militaires qui vont valider les cibles, une incompréhension des critères qui ont prévalu au choix des intelligences artificielles. Mais, pour les autorités d'extrême droite israélienne et les chefs militaires, il fallait bien le soutien des algorithmes pour la mise en œuvre de la doctrine d'Aïa. La doctrine d'Aïa, du nom d'un quartier de la capitale libanaise, rasé par l'aviation israélienne en 2006, est une doctrine militaire qui justifie la réponse disproportionnée pour terroriser l'adversaire et le dissuader d'être tout simplement un adversaire. Le quartier de Daïa abritait des combattants du Hezbollah et des gens, des civils, comme on dit. Dans la doctrine militaire suscitée, les civils n'existent plus. Ils sont tout simplement confondus avec les cibles militaires et donc détruits avec. Dans cette doctrine, les pertes civiles font partie des objectifs de guerre. Et tout ça est assumé par Tsahal. Les civils qui meurent dans la bande de Gaza ne sont pas des dommages collatéraux. Contrairement à ce qui a été dit dans la communication de l'armée israélienne, non, non, ce sont des cibles assumées. Au regard de cette doctrine officielle, décrite par le général Gadi Eisenkot en 2008 au journal israélien Haaretz, on comprend tout de suite mieux, au regard de cette doctrine de la réponse disproportionnée, les nombreuses bavures des fantassins israéliens. En fait, civils et militaires étant confondus, ils peuvent tous les tuer, et les humanitaires avec. C'est votre présence dans un lieu qui fait de vous une cible, pas du tout vos actions. Voilà la nouvelle doctrine, enfin la nouvelle doctrine, elle date de 2006 quand même, qui est mise en œuvre dans les activités militaires israéliennes. Il se trouve qu'actuellement, pour le gouvernement israélien, le fait d'être présent sur le territoire de la bande de Gaza suffit à vous cibler. Une nouvelle manifestation aura lieu le samedi 6 avril à 14h, place de la République, pour continuer à demander un cessez-le-feu immédiat mis en œuvre. Et surtout, si les guerres pouvaient cesser, ce serait quand même pas mal, non ? Eh oui, on va encore me traiter de naïf. On aurait pu vous parler de la Défense Collective, un groupe rennais dont le slogan est « De la rue aux tribunaux, Défense Collective ». L'humoriste d'extrême droite qui nous sert de ministre de l'Intérieur a décidé de dissoudre, et mercredi 3 avril 2024, le Conseil des ministres a prononcé la dissolution de la Défense Collective. Donc maintenant, ça va être échange de mémoire, celui de l'accusation, vous avez fait ci, celui de la Défense, maintenant on l'a pas fait. L'affaire n'est donc pas terminée. Pour en savoir plus sur les activités de la DEFCO, comme l'appellent les médias, vous pouvez aller sur défense collective tout attaché sans accent .noblogs.org, N-O-B-L-O-G-S pour noblogs. Donc défense collective.noblogs.org. Et si vous voulez lutter contre la dissolution, rejoignez le CCDDC. On va bientôt appeler ça le 2C2DC. Bon, peu importe, ça veut dire comité contre la dissolution DC pour défense collective. Et c'est sur Instagram. La préfecture d'Ille-et-Vilaine avait pris un arrêté pour interdire un rassemblement jeudi 4 avril, eh ben, écoutez, le rassemblement a été interdit et puis ben, une petite partie des gens ont été arrêtés pour participation à une manifestation illégale. Tout s'est très très bien passé et du coup, la mairesse de Rennes ne s'est pas engueulée avec le préfet, comme quoi, hein, des fois, les manifestations de l'ADC, ça peut bien se passer. On aurait pu vous parler de la grève dans l'éducation nationale. Mardi 2 avril, une grève contre le choc des savoirs. Et si les groupes de niveau qui s'apparentent à du tri social, oui, bah oui, quand même, faut citer les choses, hein. Du tri social, pourquoi? Bah parce que la reproduction sociale, ça existe. Et pour les plus riches, le bagage culturel est un avantage pour la réussite scolaire. Donc c'est quand même déjà quand t'es un peu plus riche que tu peux mieux réussir à l'école. Si, si, c'est vrai, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les chiffres en plus peuvent vous le prouver si vous avez une mentalité de comptable. Donc au Mans, un rassemblement s'est tenu mardi matin devant la cité administrative de Pexan, qui est derrière le lycée Touchard. Environ 150 enseignants s'étaient déplacés, dont un groupe de profs du collège Jean Rostand à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Eh bien, nous dire des choses sur ce choc des savoirs, et notamment une prof de mathématiques tenait une pancarte.
Il est indiqué, on trie les déchets, pas les élèves. À quoi vous faites référence?
Je fais référence aux groupes de niveau qui vont être mis en place à la rentrée pour les 5e et les 6e en mathématiques et en français. Ils vont être triés par groupe en maths et en français, les faibles d'un côté, les moyens d'un autre côté et les forts de l'autre.
Alors il a été dit par le gouvernement que ce n'était pas du tout les mots qui allaient être employés, pas faibles, forts, mais des groupes de niveau selon les besoins. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, ce qui se cache derrière les besoins, c'est juste qu'ils ont changé le mot, mais ça reste les faibles, les forts et les moyens.
Et à votre avis, est-ce qu'il sera possible de passer d'un groupe à l'autre si, au fur et à mesure du temps, on améliore ses compétences en tant qu'élève?
En théorie, c'est possible, mais en pratique, ça ne le sera pas du tout. Déjà, les groupes ne vont forcément pas avancer au même rythme, puisque avec les élèves qui ont des difficultés, on avancera moins vite, forcément. Nous, par exemple, dans notre collège, on a 6 classes, 6 groupes de niveau. Donc ça veut dire qu'en fait, les effectifs ne seront pas réduits. Donc si on imagine qu'un élève faible progresse, du coup, ça va encore augmenter les effectifs des groupes supérieurs, c'est-à-dire des moyens et des forts. Et en fait, on aura des groupes surchargés, donc en pratique, on ne pourra pas changer.
Quand vous parlez des groupes de niveau, c'est une opposition au niveau fondamental, au niveau du fond, ou alors c'est la mise en œuvre qui vous gêne?
Les deux. On ne trie pas les élèves, quoi. On ne met pas les faibles d'un côté, ça les stigmatise. Ça va créer des tensions, des harcèlements sûrement. Ils vont subir des moqueries d'être dans les faibles. Ils vont se demander pourquoi ils sont dans les faibles, premièrement. Deuxièmement, ils n'auront pas les mêmes chances que les autres parce qu'on avancera moins vite, on fera moins de choses. Ils seront moins aidés par les plus forts, en fait. Les élèves faibles, en fait, ils sont aidés par ceux qui donnent les bonnes réponses, par ceux qui donnent le rythme. Et puis, ils les aident aussi à faire leurs devoirs en paire, mais ils les aident aussi en classe. Quand un élève n'a pas compris la consigne, l'élève d'à côté, lui réexplique. Enfin, on a besoin de cette hétérogénéité dans les groupes pour faire avancer tout le monde, en fait. Et puis je pense que les élèves forts, ils ont aussi besoin d'un mélange social, de se rendre compte qu'il y a d'autres gens pour qui c'est plus difficile, voilà.
Alors ça voudrait dire que ceux qui actuellement sont au gouvernement ne comprennent pas qu'il y a cette entraide à l'intérieur d'une classe, ils pensent que tout passe par le professeur?
Oui, je pense. Et je pense surtout que, en fait, cette réforme est vraiment élitiste. En fait, ça a été prouvé que les groupes de niveau, ça ne fonctionne pas scientifiquement. Ça a été prouvé, ça ne fait pas progresser tout le monde. Ça a une toute petite influence sur les meilleurs élèves. Donc, en fait, cette réforme est complètement élitiste. Elle va juste servir aux meilleurs élèves. C'est tout. Et je pense que le gouvernement, c'est ça qu'il veut.
L'interprétation de cette professeure de mathématiques est-elle exacte? L'interprétation des désirs gouvernementaux? Eh ben, on peut se poser la question, objectivement, si on se souvient des discours macroniens sur ceux qui ne sont rien, sur les premiers de cordée, sur le fait que, ça, il avait balancé ça en 2015 quand il était encore ministre de l'économie capitaliste, il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Il est vrai que la Macronie semble plus attirée par les plus riches, les plus puissants, la fameuse élite, plutôt que par les habitants du pays dans leur diversité de niveaux, à tous les niveaux. Un groupe de profs de collège de la Loire-Atlantique, appelé De Niveau, a fait une reprise de la chanson de Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. La reprise s'appelle Le chaos des savoirs. En voici juste la fin.
Nous on veut un collège qui donne le goût d'apprendre et confiance à chacun. Où c'est pas la compète et qui pour réussir leur donne de vrais moyens. Faut faudra leur expliquer, c'est à cause de PISA que tout s'est pisalé. Nous on n'a pas le niveau pour les groupes de niveau, mais on a plein d'idées. On nous parle de théâtre.
Ça, c'est du cinéma.
C'est sûr, c'est pas le même projet hein, que celui de nos dirigeants actuels qui cultivent les inégalités. Dans la chanson, il est plutôt question d'absence de compète et de culture de la confiance en soi. Une école comme ça, ce serait déjà pas si mal. Et si en plus on pouvait étendre ça à toute la société, ben voilà, je vais encore me faire traiter de naïf, moi. Mais tiens, le mardi 2 avril 2024 avait également lieu une action des postiers CGT, Place de la République, pour réclamer l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation des salaires. Ça en fait des personnels qui ne sont pas tout à fait contents de ce qui se passe. Ça en fait tellement que, ben tiens, il faudrait peut-être à un moment se retrouver tous ensemble pour dire stop, non, on n'en veut plus. Et si on faisait une autre société? Ouais, allez, non, je l'ai déjà dit.
J'arrête.
C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le I.
Le I comme inégalité. La richesse gardée par un petit groupe de personnes égoïstes crée des inégalités pour la majorité des personnes parce que ce n'est que ceux qui ont le plus de sous qui ont accès aux meilleurs repas et aux meilleurs jouets. Tout devrait pouvoir être partagé à tout le monde selon ses besoins, sans différence d'argent, de couleur, de peau ou de famille. C'est vrai que ça devrait être comme ça. Je rappelle que ce que je viens de lire est tiré du dictionnaire anarchiste des enfants que vous pouvez acheter aux éditions Atelier de Création Libertaire, atelierdecréationlibertaire.com. On aurait pu vous parler également de l'opposition au JO qui s'organise avec un 1er mai qui serait un petit peu sous le drapeau de l'opposition aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et si vous voulez de l'information à la fois pour savoir pourquoi on peut être contre et puis à avoir de la matière dans des débats avec ceux qui seraient pour, saccage2024.noblogs.org, saccage2024.noblogs.org. Mais finalement, on a préféré continuer à vous parler des chronolignes à travers la place de la bagnole en ville. Si, on a préféré faire ça. Samedi 23 mars, au matin, sur l'avenue Bollé, à la hauteur, je vais y arriver, de l'école Herpel, le collectif contre l'abattage des 400 arbres présents le long des chronolignes, dont 200 avenue Bollé, appelait à un rassemblement. On y avait rencontré Jean-François Devins, membre des Corias, un groupe militant qui souhaite peser sur la démocratie municipale, et qui nous disait que ce qu'il faudrait quand même faire, c'est extraire la bagnole le plus possible des villes, et c'est-à-dire limiter sa place, limiter sa capacité à envahir les villes. Des signes extérieurs de et on s'était dit la dernière fois que ces signes extérieurs de richesse motorisés étaient de plus en plus larges, de plus en plus hauts, de plus en plus lourds, et on avait des exemples chiffrés pour prouver tout cela, et que ces signes extérieurs de richesse motorisés appelés bagnoles occupent une place disproportionnée de l'espace public, une place physique bien sûr, mais aussi psychologique, tant la bagnole est le produit d'une idéologie combinant les aspirations libérales de transformation de tout un chacun en source de profit par son travail et la liberté de mouvement vendue par les industriels avec la bagnole suscitée. Une idéologie qui ne s'est pas imposée sans mal. Dans le mensuel papier La Décroissance, un certain François Jarige, que les auditeurs historiques de l'émission, quand elle n'avait pas ce nom-là, ont pu entendre il y a quelques années, nous parler du 19e siècle et des oppositions au machinisme. Donc cet historien spécialisé dans l'étude des progrès entre guillemets techniques et de leurs opposants produit régulièrement une chronique dans le mensuel La Décroissance, une chronique sur l'histoire oubliée de l'opposition au progrès et de cette imposition du progrès. Dans le numéro 92 de La Décroissance en septembre 2012, il écrivait ceci à propos de la voiture. On a longtemps considéré que la diffusion de l'automobile avant 1914 s'était opérée avec facilité parmi les classes moyennes et supérieures, avides de nouveautés et de modernité. Il serait sans doute plus juste de dire que l'adoption de la voiture fut le résultat d'un intense travail de propagande. La publicité et le marketing naissant, automobile et publicité prennent leur essor en même temps, surassociaient l'utilisation du produit à la promotion d'un genre de vie sportif et aventureux. L'Automobile Club de France, fondée en 1895, et les constructeurs développèrent très rapidement une propagande efficace avec publication de catalogues et d'affiches en quantité considérable. La promotion de l'automobile a reposé sur une mobilisation totale de la presse populaire qui atteint alors ses tirages les plus importants. La presse automobile, quant à elle, née en France dès 1900, elle comptait 25 publications. L'Auto, journal quotidien créé en 1900, tiré à 125 000 exemplaires dès 1913. La voiture s'est imposée grâce à l'organisation de formes nouvelles de sociabilité et de loisirs, comme les courses et les meetings qui deviennent des événements médiatiques considérables et des occasions de rassurer l'opinion sur la sécurité du nouveau moyen de transport. Dès 1898, le Jardin des Tuileries reçoit à l'initiative de l'Automobile Club de France la première exposition internationale d'automobiles. Les grandes marques de l'époque comme Peugeot, Panhard et Levasseur ou encore Daimler y participent. Et cette opération remporte un vif succès puisque 140 000 visiteurs affluent. Plus généralement, c'est toute une nouvelle discipline et une intériorisation des normes qui se met en place. Le journaliste spécialiste de l'automobile Baudry de Saunier l'explicite clairement dans les années 1920. Donc là, il cite le journaliste. Il est indispensable que le piéton connaisse désormais une discipline. Ainsi, le flâneur d'autrefois va faire son apprentissage de piéton conscient en une capitale moderne. Voilà donc le piéton qui se retrouve obligé de faire attention aux bagnoles et moins l'inverse. Je reprends la lecture de la chronique de François Jarige dans La Décroissance, numéro 92, septembre 2012. Un siècle plus tard, donc le voilà, nous voilà donc ramenés en 2020. Un siècle plus tard, nous avons tous fait notre apprentissage. Nous sommes désormais domestiqués, soumis aux ordres et aux contraintes de la civilisation de l'automobile qui continue de s'imposer en nous vendant toujours l'illusion de la liberté et de la toute-puissance. La toute-puissance, important ça. Si vous voulez voir comment les piétons sont domestiqués par la bagnole, regardez une personne voulant traverser sur un passage piéton. Là où elle est prioritaire, cette personne va s'arrêter, laisser passer les voitures et ensuite elle-même passer. Oui, puisque les bagnoles, elles ne s'arrêteront pas d'elles-mêmes, sauf un certain nombre d'automobilistes qui ont conscience que le piéton est en effet prioritaire sur un passage piéton. Cette idée de toute puissance cachée sous le mot liberté dans les publicités a fini par s'imposer au point de modeler les territoire. En 1961, un certain Lewis Mumford, un autre historien de l'urbanisme, des sciences et des techniques, produisait un livre intitulé « La cité à travers l'histoire » que vous pouvez trouver chez Agon Éditeur dans l'un des derniers chapitres. Chronologie oblige, nommé de la banlieue à la cité future, ouais, parce qu'il commence quand même dans l'Antiquité, hein, dans son bouquin. Donc, un des derniers chapitres intitulé « De la banlieue à la cité future », il aborde la ville contemporaine, donc des années 60, pas si différente de l'actuelle. Je cite Lewis Mumford, un extrait de « La cité à travers l'histoire ». Les choses en sont venues à ce point que tous les services urbains dépendent étroitement de la circulation automobile. Celle-ci prend à la fois aux habitants des banlieues le temps et l'espace. Il en résulte des sentiments de frustration et des accès de mauvaise humeur. Car, sous le beau prétexte d'augmenter la vitesse de circulation, on ne parvient en fait qu'à la ralentir et à rendre les rencontres plus difficiles en dispersant dans un vaste secteur régional les fragments épars de la cité. À la base de cet échec de la technologie moderne, on trouve la croyance fort contestable en la valeur intrinsèque de la puissance et de la vitesse, qui conduit chacun à penser que le dernier modèle de voiture rapide doit remplacer tous les autres moyens de transport. La notion de vitesse devrait être en fait subordonnée au but à atteindre. Si l'on entend se promener en admirant un site urbain et en discutant, la vitesse de 5 km/h à l'heure est plus que suffisante. C'est ce que l'on fait quand on va à pied. Mais lorsqu'un chirurgien est appelé auprès d'un malade qui se trouve à une distance de 1500 km, une vitesse de 500 km/h risque d'être trop lente. Nos spécialistes des transports paraissent incapables de reconnaître qu'un moyen de locomotion unique, quelle que soit théoriquement sa rapidité, ne saurait suffire et qu'il est indispensable de prévoir une très grande variété de moyens au réseau et aux vitesses variables, s'adaptant ainsi aux différents objectifs. Le moyen le plus rapide de transporter 100 000 personnes à une distance inférieure à 800 mètres et de leur permettre de parcourir le trajet à pied. Et le moyen le plus lent serait de les faire monter dans des voitures individuelles. Si l'on interdisait toutes les rues de Boston à la circulation des véhicules, les habitants pourraient se rassembler sur la place publique en moins d'une heure. En automobile, il leur faudrait plusieurs heures. Et encore, la plupart seraient contraints d'abandonner leur véhicule impossible à garer pour pouvoir arriver à destination. Nos ingénieurs en transport et nos autorités municipales, hypnotisées par la popularité de la voiture individuelle, se sentant dans l'obligation d'aider au développement de General Motors, même si un chaos général en résulte, ont participé à une conspiration ouverte pour démanteler toutes les formes de transport nécessaires à un bon fonctionnement et ont réduit nos possibilités à cette voiture individuelle et à l'avion. Ils ont également développer les chemins de fer, mais répétant les erreurs de leurs prédécesseurs, ils ont entassé dans les villes terminus une population que la voiture individuelle ne peut transporter à moins de démolir la cité pour permettre son déplacement et son stationnement. Nos spécialistes et administrateurs, s'ils avaient été compétents, n'auraient pas manqué de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les méthodes les plus efficaces de transport en commun, conservant ainsi l'intégrité de la cité et d'autres formes plus rapides de déplacement. L'articulation concertée de la circulation pédestre, des transports de masse, du réseau des rues, des autoroutes, des avenues et des aérodromes est seule capable de satisfaire à tous les besoins de la communauté des temps modernes. Nous n'avons pas d'autre choix. Et il continue en disant « Il est indispensable, cela va sans dire, que les projets d'urbanisme tiennent compte de la circulation automobile, mais il n'est nullement nécessaire que les voitures soient autorisées à pénétrer et à stationner librement dans toutes les parties de la cité, au plus grand détriment de toutes les autres activités, ni que l'ensemble des modes de vie soient organisés en fonction de l'usage d'une voiture personnelle, ni encore que les structures mêmes de la cité puissent être remises en question par la sortie de modèles aux dimensions de plus en plus importantes. Le temps paraît venu, au contraire, de distinguer entre l'utilisation urbaine et le voyage à longue distance. Une voiture spacieuse dans laquelle toute la famille s'installe à l'aise convient parfaitement à ce dernier. Mais les voitures de ce type ne devraient pas être autorisées à circuler à l'intérieur même de la cité. On pourrait leur imposer de lourdes taxes de stationnement tout en encourageant la production et la vente de petites voitures mues électriquement qui seraient utilisées en complément et non en remplacement des transports publics dans les limites de la cité. Vitesse modérée, discrétion, encombrement réduit, maniabilité, telles doivent être les caractéristiques de la voiture en ville. Voilà une analyse qui, déjà en 1961, pointait bien du doigt les errements de ceux qui se font passer pour nos représentants quand il s'agit de privilégier un morceau ou un autre de la société, là en l'occurrence l'industrie automobile. Nous sommes tellement loin de cette bagnole maniable, petite, discrète, peu encombrante, on l'a vu la dernière fois. Pour ceux qui sont déjà au courant qu'il vaut mieux respirer qu'aller plus vite, le collectif contre l'abattage des arbres, mais pour une ville, se réunit régulièrement. La dernière fois, c'était le mercredi 27 mars, vous l'avez loupé, suivez un peu les réseaux sociaux et allez régulièrement sur sarthe.demosphère.net pour être au courant de ce qui se passe à Le Mans et pas simplement de la part du collectif contre l'abattage des arbres de Bollé, que vous pouvez contacter à cette adresse collectif-arbre-bollé@anche.no. Collectif au singulier, c'est le tiré du 6, tiré du milieu. Arbre avec un S, bollé@anche.no. Et si on avait eu le temps, je n'aurais pas résisté à vous lire un extrait de Énergie et équité de Ivan Illich à propos d'une solution d'avenir pour la mobilité, le vélo. Mais on va pas l'avoir. Je me vengerai. Je le ferai un jour. Promis, je le ferai. « Nouvel avis à la population, le centre social autogéré L'Allumette, situé dans le quartier de Pontlieu, a toujours besoin de sous pour sécuriser le paiement des frais de fonctionnement réguliers. L'Allumette a besoin de 400 euros mensuels. Alors, pour donner du soutien à l'Allumette, les moyens sont légion. Et oui, on peut se rendre sur place pour rencontrer l'équipe et en savoir un peu plus. C'est 7 rue de la Marne, les mercredis et samedis après-midi. Il y a permanence entre 14 et 19 et il y a des activités les autres jours. Vous tomberez sûrement sur quelqu'un, 7 rue de la Marne. Ou alors vous pouvez utiliser les réseaux dits sociaux parce qu'il y a un Facebook. Le Facebook, c'est @allumette.csca, @allumette.csca. Il y a un Insta aussi. Un Insta, l'Insta, c'est l'allumettelefeu, c'est @l_8_ et allumette. Donc, l_allumette. Il y a un mail également. Et là, le mail, c'est l'allumettelefeu@libremail.net. l'allumettelefeu@libremail.net. Et puis un téléphone, le téléphone c'est le 07 57 18 96 07. 57 18 96. Si avec tout ça, vous ne trouvez pas moyen de les contacter pour leur dire voilà, je t'assure 20 balles par mois pour tes frais de fonctionnement régulier, c'est vraiment qu'il y a de la mauvaise volonté. Hein. On a dit qu'il y avait une manifestation à pour Gaza, des manifestations à Gaza aussi. Il y a une manifestation pour défendre la population gazaoui notamment, pour défendre la paix également au Moyen-Orient, parce que l'air de rien, les Israéliens subissent aussi ces guerres permanentes, ces conflits permanents qui, je le rappelle, ont lieu essentiellement entre l'extrême droite israélienne, l'extrême droite religieuse israélienne et l'extrême droite religieuse musulmane qui, elle, a pris le pouvoir dans la bande de Gaza. Ah, je vous assure, pour les populations, ça ne va pas être très très drôle, hein, franchement. Alors, une manifestation à Place de la République à 14h, organisée par le collectif Justice et Paix 72. Une justice et une paix qui pourraient se manifester dans l'ensemble du Moyen-Orient. On vient de vous en parler, l'Assemblée du collectif de défense des arbres de l'avenue Bollée se réunit le mercredi 10 avril à 18h à la Maison des citoyens et citoyennes, Place des Comtes du Maine. C'est à Le Mans, mercredi 10 avril 2024 à 18h. On aurait pu vous parler également d'autres choses, hein, par exemple les rencontres printanières antinucléaires et anti-autoritaires qui ont lieu à Bure à partir du mercredi 17, mais on aura peut-être l'occasion de se faire justement une petite émission spéciale nucléaire, puisqu'il y a une relance du nucléaire qui n'a jamais été abandonnée. On ne fera pas venir M. Jancovici. Non, il a déjà trop de place dans pas mal de médias. Alors, n'oubliez pas rencontrer, de vous connecter, d'être les uns avec les autres, de se soutenir. Ouais, c'est pas mal de se soutenir, plutôt que de se détester. Et puis, même s'il y a des gens à détester, moi, je vous dis, allez, au revoir.